Je me suis demandé. Voilà. Pas si longtemps la question à hein, qu'est-ce que signifie en fait d'être chrétien au XXIe siècle? Je suis tombé sur un article qui disait être chrétien aujourd'hui, c'est vivre l'Évangile. Et il continue dans cet article et il disait, finalement un petit peu après, c'est vivre l'esprit des béatitudes. Vivre l'esprit des béatitudes. Je me suis dit, tiens donc, hein, hein, il faut creuser ça un petit peu plus. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Hein. Béatitude, je vous lance le défi de placer ce mot dans une conversation avec vos copains de travail. C'est pas évident, hein, c'est pas un mot qu'on entend tout le temps. C'est un mot qui vient du latin, et ça veut dire, quelqu'un sait? Le bonheur. Le bonheur. Et pour savoir ce que c'est les béatitudes, alors l'esprit du bonheur, hein, il faut revenir 2000 ans en arrière. Il faut regarder le premier discours que Jésus a donné, le nommé Sermon sur la montagne. Sermon parce que c'est un sermon, et le montagne parce que c'est sur une montagne hein, qu'il a parlé, ou une colline. Hein, c'est un... Et ce sermon sur la montagne, c'est un peu le programme politique de Jésus. Son credo, sa vision. Un peu l'équivalent de 10 commandements dans l'Ancien Testament. Le fondement qui règle ma relation avec les hommes, mais aussi avec Dieu. Comme les 10 commandements, hein, qui règle notre relation avec Dieu et notre relation avec les hommes. Et ce discours que j'aimerais vous revoir avec vous les dimanches qui vont suivre, commence par le bonheur. Et c'est bien, hein? C'est bien comme ça. Hein? Ça enlève tout de suite l'idée de contrainte. Alors ce que Jésus va nous dire, ça va être lourd, hein? Ça va être dur, oh là là là, des lois, il faut faire ça et ça. Non, comment il commence? Avec le bonheur. Le bonheur, c'est bien. Alors, vivre en tant que chrétien au XXIe siècle, ce n'est pas une corvée. C'est du bonheur. Et si nous avons compris ça, nous avons compris l'esprit de Jésus-Christ. Ce bonheur est garanti par Dieu lui-même. C'est du béton armé, c'est du solide. Alors, le temps de découvrir ce passage en Matthieu 5, versets 3 à 12. Vous pouvez lire là-devant, hein, ou tu as même les feuilles, ou ceux qui ont les Bibles, ou les smartphones. Hein. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituels pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon envers eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés par la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies, on dit comme ça, sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes autrefois, mais aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Jésus nous montre, voilà, un chrétien. C'est ça. Si je dis ça, je ne veux pas que vous pensiez être chrétien, c'est une certaine level à atteindre. Hein, on n'est pas un bon chrétien après level 10, hein, ou 15, ou 20. Jésus nous dit simplement qu'être chrétien est une façon de vivre. Et sachez que cette façon de vivre n'a rien à voir avec mes expressions que j'ai dans le culte. Rien. J'ouvre une parenthèse là. Parce que ces béatitudes, on ne les trouve pas seulement chez Matthieu. Là, on a lu Matthieu. Il se trouve aussi chez l'évangile de Luc. Et c'est intéressant qu'il y a certaines différences, hein, entre Matthieu et Luc. Parce que Matthieu dit, par exemple, voilà, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. » Luc dit simplement « ceux qui ont faim et soif. » Et il dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, » dit Matthieu. Luc dit « Heureux les pauvres. » Et c'est tout. Les deux, ils ont entendu les mêmes choses. Mais sous l'influence du Saint-Esprit, ils n'ont pas compris la même chose. Vous voyez ça? Pourquoi? Pourquoi il interprète différent? Parce que Matthieu, lui, c'était un mathématicien, hein, si je peux dire ça comme ça, un collecteur d'impôts et un juif. Avec sa façon juive, avec sa façon de compter les sous. Il comprend ça comme ça. Et en tant que juif, il voit tout ça que Jésus a dit d'une façon spirituelle. Luc, c'était qui? Luc, c'était un médecin. Et il était un païen, hein, un grec, hein, si on peut dire ça comme ça. Hein. Alors, il voit la même chose, tout différent. Il spiritualise pas tout. Pour lui, quand Jésus parle de pauvres, c'est des pauvres. Et quand il parle de ceux qui ont faim et soif, c'est ceux qui ont faim et soif. Il est médecin. Il voit la personne comme il est, la personne. Je trouve que c'est un... Là, je vais fermer la parenthèse avec le souhait que nous comprenons que nous sommes tous différents. Et nous tous, nous voulons vivre le mieux possible, hein, comme disciples de Jésus dans une église. Hein? C'est important de savoir. Hein? On peut avoir un arrière-plan différent, mais on veut tous, chacun, mais tous en œuvre qui lui est possible pour arriver au but. Voilà, je ferme. Alors, pour que notre vie comme chrétien soit ce bonheur tellement souhaité et espéré, il faut à tout moment une intervention de Dieu. C'est obligé. Jésus nous le dit clairement, hein, vous savez, il y a toujours le quel mot dans tout, chaque verset. Le mot « car », hein? Car. Toujours Dieu donne quelque chose. Oui, il a peut-être heureux aussi, voilà. Je pense au « car », hein. Pardon. Hein. Et c'est important. Jésus ne s'envoie pas dans le monde sans nous équiper de ce que nous avons besoin pour affronter ce monde. Il ne nous laisse jamais sur le carreau. Je dirais même que la récompense qu'il nous donne est à la hauteur de ce que nous pouvons donner. Alors, sur ce passage, il y a 8 caractéristiques, hein, d'un chrétien, hein, accompagnées par l'aide que Dieu nous donne pour nous faciliter la tâche. Et là, voilà, peut-être je me suis... j'ai vu trop grand. Qu'est-ce qu'on dit? Les yeux sont trop grands pour... Non, hein, je ne m'en rappelle plus. Hein, okay. Voilà, c'est ça. Peut-être que j'ai fait ça. Hein, parce qu'il y a certains qui font des prêches pour chaque heureux. Et il y a des livres que pour ça. Alors, c'est vraiment très vaste et je vais laisser quelques pensées et quelques pistes. Peut-être que je voulais trop, mais je ne sais pas. Alors, tu peux avancer? Non, il ne peut pas. On va voir les huit. C'est que, seulement une petite aide. Voilà. Premier, pour l'humilité, Dieu propose son royaume. Verset 3, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Disons clairement que le monde ne va pas s'écrouler à cause de notre humilité. Bien au contraire. Alors, ce n'est peut-être pas par hasard que Jésus commence avec ce mot-là. Si nous voulons entrer dans le royaume des cieux, ou dans le royaume de Dieu, il faut que nous reconnaissions d'abord notre vraie nature. Alors, comprenez-moi bien, je ne veux pas maintenant jouer l'apôtre de morale. Et je ne vais pas dire des choses pour vous mettre mal à l'aise, ou que vous avez passé maintenant à nouveau votre quart d'heure de flagellation évangélique de dimanche après-midi. Ce n'est vraiment pas ça mon but. Pour vous montrer comme nous sommes pauvres et malheureux, et comme la vie des chrétiens est pauvre et malheureux, et on n'arrive pas parce que... Non, ce n'est pas ça, pas du tout ça. J'essaye de ne pas être ça, parce que Jésus n'est pas ça. Quand Jésus nous parle, il ne parle pas comme ça. Jésus dit simplement le bonheur est dans l'humilité parce qu'aux humbles appartient le royaume. Parce que Jésus aime les arrogants autant que ceux qui sont humiliés, autant. Mais il n'a rien à leur proposer, c'est ça. C'est ça. Dieu ne fait pas la distinction dans son amour. Mais ceux qui ne veulent pas son amour, il n'a rien à proposer. Mais à ceux qui sont prêts à s'humilier, ils sont prêts à accepter notre être, notre péché par exemple. Là, il a à proposer quelque chose. Je peux dire, waouh, je ne veux pas. Et c'est mon droit. Mais il n'a rien pour moi, il ne peut rien. Mais si vous arrivez à reconnaître que vous avez besoin de l'aide pour descendre de notre descente, de notre piédestal, pour reconnaître qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes rien face à la vie, sans armes, là, nous avons tout à gagner. Un royaume entier, là. Là où je suis prêt à dire, waouh, je suis prêt à descendre. Je suis prêt à dire, j'ai besoin de toi, Seigneur. Là, j'ai tout à gagner. Tout. Deuxième verset, verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Je marquais, pour les larmes, Dieu propose sa consolation. Normalement, on traduit ici, heureux les malheureux. C'est assez paradoxe. Écoutons bien. Jésus ne dit pas « Heureux les pleurnicheurs, ceux qui ont de toute façon jamais de chance, qui sont toujours à plaindre. » Non. C'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez quelque chose comme ça. Mais chaque fois, parfois je dis « Mais ce n'est pas possible. » Chaque fois quand je rentre dans ma douche, il y a toujours, et c'est fou, toujours le même cantique qui me passe par la tête. Et la dernière fois que je l'ai vraiment chanté, c'était il y a 40 ans, en Suisse, parce que je ne le connais qu'en allemand. Mais chaque matin, je rentre dans la douche, bam, c'est le même cantique que je chante. Et ça parle du fait que quand Jésus est entré dans ma vie, que c'était le plus beau jour de ma vie. Le plus beau jour de ma vie. Et pourquoi? Parce que la richesse, la gloire et l'honneur ne rendent pas libre. Et vous savez quoi? Sous la douche, je commence à pleurnicher. Parce que je me demande pourquoi je suis Jésus, parce que j'étais jamais riche, jamais vraiment j'avais la gloire. Si, j'ai une fois gagné une course, hein, de course à pied, et là, c'était mes 5 minutes de gloire. Hein. Je courais comme un fou. Hein. J'étais petit. Hein, j'étais petit. C'était ma gloire hein, à l'époque. Bon, wow. Hein. Et combien on commence vite à... Ah, bah aussi, seulement j'aurais été riche. Hein. Alors, je sais que ce que j'ai perdu quand j'ai suivi Jésus, mais même ça, je n'avais pas. Jésus ne dit pas « heureux le pleurnicheur hein. ». Jésus pense à ceux qui arrivent à pleurer avec les autres. Il pense à ceux qui arrivent à pleurer à cause de leur propre péché. Il pense à ceux qui arrivent à pleurer pour le salut des âmes perdues. Et c'est à ceux-là que Jésus propose sa consolation. Et comment il le fait? Pour aujourd'hui, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est dit, est nommé le Consolateur. Celui qui vient dans notre vie pour nous consoler. Et pour l'éternité, une place dans son royaume. Où c'est marqué, il va sécher toutes nos larmes. Ah voilà, vous savez, un chrétien, ce n'est pas forcément une madeleine ou une fontaine. Hein, qui pleure tout le temps. Ah voilà, je suis... Non. Mais ce n'est pas non plus une armoire... Comment dire, armure à glace? C'est armoire à glace. Hein, armoire. Ce n'est pas non plus une armoire à glace. Le bonheur est dans les larmes. Comme c'est marqué dans un de mes psaumes préférés. C'est le psaume 126 d'ailleurs. Hein. Celui qui sème avec larmes récolte avec cri de joie. C'est ça l'esprit de Jésus-Christ dans les béatitudes. Celui qui sème avec des larmes peut semer, récolter avec des cris de joie. Verset 5. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Pour la douceur, Dieu propose son héritage. C'est un clin d'œil à Moïse, hein? Vous voyez les clins d'œil à Moïse, là? Nombre 12, verset 6. « Mais Moïse était un homme fort doux, plus qu'aucun homme qui furent sur la face de la terre. » Et qu'est-ce qu'il avait comme promesse? La terre, comme héritage. Vous voyez Abraham et Lot? Alors, hein? Vous voyez les... et maintenant expliquer, je ne peux pas tout expliquer. Hein. Abraham et Lot, ils étaient là devant la terre. Abraham demande, voilà, dit, voilà, Lot, tu peux choisir d'abord. Soit tu choisis là, et je vais là. Si tu choisis là, je vais là. Lot, il choisit là où c'est très beau à voir. Hein. Très beau à voir. Abraham, il reste, ceux qui restent. Hein. Mais à la fin. Qui avait encore la terre? Quand Sodome et Gomorre est détruit, et Lot doit fuir avec sa femme et avec toute sa famille, il n'a plus rien à la fin. Heureux les doux, parce que la terre est à eux. Je pense à David et Absalom. Hein, David, le roi à l'époque, Absalom son fils. Absalom veut devenir roi, il veut avoir ses terres. David dit, voilà. Hein, un homme doux, je te laisse. Hein. Si tu veux la terre, je te donne. Qu'est-ce qui est devenu Absalom? Accroché à ses cheveux longs, il ne touchait même plus la terre. Et tout revenait à David. Et Jésus-Christ lui-même, hein, l'agneau de Dieu, hein, le semblant de la douceur. Prenez mon joug sur vous. Et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que vous impose est légère. Et là, j'avoue, hein, on est dans un domaine extrêmement contre nature. L'évolution nous dit, c'est que les forts qui vont survivre et pas les autres. Et Jésus nous encourage de faire exactement le contraire. Laisser faire, s'effacer. Pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le discours qui va suivre, ils savent déjà de quoi il va parler. Hein? Montrer l'autre chose, par exemple. Hein? Quand il demande ton truc, donne encore le manteau en plus. Quand il te demande de faire 100 mètres avec lui, fais encore 2 kilomètres. Hein, vous comprenez. Partagez. Soyez doux si vous voulez fouler la terre promise. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Pour la justice, Dieu propose sa justice. Nous parlons ici de vivre dans la justice, hein? Comme Jésus. Combien de fois les gens se sont heurtés à la justice de Jésus? Mais quoi, tu manges avec tes publicains, tu manges avec tes pécheurs? C'est ça ta justice? Wow, bienvenue pour qui toi? Hein? Ils se sont heurtés. Et quand il dit des phrases comme « que celui qui est sans péché lance la première pierre », wow, mais Jésus, attends, hein? C'est pas, parfois, je peux vous raconter une blague. Vous savez que chez les catholiques, Marie est considérée ce qui est son péché. Hein? Dans cette blague-là, il y a Jésus hein, et devant la femme et la pécheresse. Et il dit à celui qui est son péché, verse la première pierre. Et après, il n'a rien. Et tout à coup, il y a un petit caillou qui vient de lancer sur la tête de la pauvre femme. Et Jésus se tourne. Mais maman, arrête de faire des bêtises. Parce qu'elle les empêchait. Hein, voilà. N'importe quoi. Pour Jésus, un chrétien est animé par cette justice. La justice... Voilà, il faut que je retrouve. Voilà. Parce que c'était vraiment une bêtise. Voilà. Ah ben là, voilà. Pour Jésus, le chrétien est animé par cette justice. La justice, c'est que chacun peut venir avec ses fardeaux. À l'église, par exemple, chacun peut venir avec ses fardeaux sans de devenir quelqu'un d'autre ou sans de devenir comme moi. Avons-nous compris que les gens, nous aussi, ont besoin d'être rassasiés? Parce que les gens, ils ne vont pas venir ici, chez nous, pour devenir comme moi. Ils ont besoin parce qu'ils ont quelque chose qui leur manque. Et c'est ce manque, à ça, il faut répondre. Il ne faut pas répondre à tous les bons discours que j'ai. Pas du tout. Hein. Il faut répondre à ceux qui ont besoin, les gens qui sont là. Et c'est ça la justice de Jésus-Christ. Que chacun, qu'un publicain, une prostituée, peut venir chez lui comme elle est. Et elle peut trouver chez lui ce qu'elle a besoin. Sans qu'elle doit devenir un Jean-Pierre ou un Thomas ou un Éric ou un je ne sais pas quoi. Ou pas qui. C'est ça la justice. Le problème est simple. Que chacun est accepté à sa juste valeur. Moins que tu vis la justice envers les autres, moins que tu vas te trouver justifié toi-même. Si tu n'arrives pas à être juste envers les autres, tu vas toujours avoir du mal à être juste toi-même. Et tu vas être frustré parce qu'il te manque quelque chose. Celui qui n'a point connu le péché, et c'est ça, hein? Attendez. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ça la justice de Jésus. Il a pris ce qui me manquait et il l'a rempli avec sa justice à lui. Soyons justes envers les autres. Ouais, voilà. Verset 7. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Pour la miséricorde, Dieu propose sa grâce. Plus que Jésus avance dans sa liste, plus on est conscient qu'il veut qu'on se distingue. On peut dire distinct du monde? Plus qu'il veut que nous nous distinguons, je ne sais pas, du monde. Il veut que nous proposions une contre-culture. Il ne faut pas que nous devions comme le monde. Non. Quand Jésus dit ça, il veut que nous proposions autre chose. Et c'est ça notre défi. Notre défi pour une église dans le 21e siècle, de notre église dans le bassin de Pompée. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme contre-culture qui ne va pas comme le monde? Être chrétien est avant tout avoir un cœur pour les pauvres. C'est ça le mot, hein? Miséricordieux, c'est avoir un cœur pour les pauvres, c'est tout simple. Hein? En pensant aux autres, la grâce vient chez nous. Désolé, il faut que j'accélère. Hein? Verset 8, heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Verset 8. Pour la pureté, Dieu propose sa présence. Vous savez, je ne sais pas ce que c'est pour vous, un cœur pur. Pour moi, un cœur pur, c'est une vie sans mensonge. Parce que le mensonge est le père, la mère, hein, équitable aujourd'hui, hein, la mère de tous les péchés. Un verset dans la Bible m'a toujours beaucoup frappé, énormément. Hein. Et vraiment, hein. Vous savez, jamais lu la Bible. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Vous étiez parfois aussi frappé par un verset de la Bible. Mais vraiment, ça vous arrive? Parce que si ça ne vous arrive pas, vous avez tout faux. Hein. Il faut que vous recommenciez de lire votre Bible dès le début. Si la parole n'arrive pas à vous donner des claques pour vous réveiller, vous n'avez jamais vraiment lu la Bible comme il faut, c'est bête de dire ça, comme ça. Hein. Il y a un verset comme ça, hein. Un verset coup de poing hein, qui m'a donné une sensation de « waouh ». Apocalypse chapitre 21, verset 27. Il n'entrera chez elle, dans le royaume de Dieu, hein, dans le ciel, hein, rien de souillé. Il rentrera rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'y a personne qui rentre au ciel qui se livre à la mensonge. Bon! Parce que j'avais beaucoup, beaucoup de mal avec la vérité. Et si je dis maintenant, encore aujourd'hui, que j'ai parfois du mal, vous allez peut-être plus jamais m'écouter. Hein. C'est peut-être pas des gros mensonges, hein, mais c'est parfois des choses qu'on ne dit pas, qu'on devrait dire, des choses qu'on fait, qu'on ne devrait pas faire. Hein. Hein. Bang, le coup de poing, hein. Il n'entrera rien qui est souillé. Heureux ceux dont le cœur est pur. Avons-nous un cœur pur? Vous savez quoi? Je vous laisse ce défi pour les 2 semaines à venir. Hein. Parce que le 18 octobre, Christina et moi, nous sommes partis. Et ils vont avoir un culte plutôt louange, partage. Hein. Alors, je vous lance en 2 semaines. Pendant les 2 semaines, à partir d'aujourd'hui minuit, hein, pour 2 semaines, vous disiez toujours la vérité. Toujours. où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, vous disiez toujours la vérité. Et si possible, peut-être le 18, vous pouvez partager qu'est-ce que ça a amené dans votre vie. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a déclenché quelque chose? Est-ce que ça vous a approché peut-être de Dieu? Ou qu'est-ce que ça a fait dans votre vie? Vous avez compris? Vous avez 2 semaines, hein, à partir de ce minuit-là. Que la vérité. Hein? Essayons. Hein. Alors, verset 9. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu le reconnaîtra pour ses fils. Pour la paix, Dieu propose sa famille. C'est hallucinant, hein, de ce que Dieu nous propose ici. Être un enfant de Dieu, d'être reconnu comme fils de Dieu. Et vous ne voyez pas simplement ici, on est reconnu comme fils de Dieu devant les milliards des anges qui existent dans l'univers, devant des milliards de démons qui existent dans l'univers. Nous sommes fils de Dieu. Vous êtes fils ou fille de Dieu. Nous faisons partie de sa famille. Et s'il parle de la paix, il veut dire quoi? Il parle de quoi? Il parle de la réconciliation. C'est ça, répandre la paix autour de nous. Comme Jésus lui-même, il a fait. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même. Tout ce qui est sur la terre, que ce soit ou dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est ça, amener la paix. Amener la paix en tant que chrétien, c'est ça. Amener la réconciliation, la paix les uns avec les autres. C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. Et tous ceux qui viennent ici, qui partagent notre vie d'église, peuvent venir en paix. Et ça n'a pas de prix. Hein. Et pour ça, on est fils de Dieu, pour ça. Ça n'a pas de prix. C'est parfois... Non, là, il faut que j'avance. Et pour le verset 10 à 12, hein, pour la fidélité, Dieu propose une énorme surprise. Heureux ceux qui sont opprimés par la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront sur toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Pour la fidélité, pour être fidèle dans chaque moment de notre vie, même quand c'est dur. Dieu propose quoi? Une énorme surprise. Hein? Vous avez lu, hein? Une magnifique récompense. C'est quoi? On ne sait pas. Peut-être moi, magnifique surprise. Je fais les premiers 1000 ans au ciel, il me reste roulé en Ferrari. C'est sûr, c'est ça une magnifique récompense. Je ne pense pas spirituel. Il peut peut-être dire, ah voilà, tu vas chanter dans la chorale de Dieu. Je ne veux pas, ça, ce n'est pas mon truc. Hein. Mais, et il y a une magnifique surprise. J'ai dit ça comme ça, hein, je peux. Hein. Il y a une magnifique surprise pour chacun de vous. Magnifique surprise. Quelque chose qui dépasse tout ce que vous pouvez penser, hein. Et imaginez, Dieu a déjà préparé pour vous. Vous voyez encore quand vous étiez gamin, peut-être pas, mais chez nous, il y avait des cadeaux en dessous du sapin. C'était toujours, on voyait, ah là là, parfois on l'a touché un peu pour regarder. Parce que, c'était la surprise. Qu'est-ce qu'on voit? C'est ça. Quelque part là-haut, sous le sapin, je ne sais rien. Il va avoir une magnifique surprise pour chacun de nous. Mais pour avoir cette magnifique surprise, heureux les fidèles, heureux ceux qui sont même dans les plus bas de leur vie, ils sont prêts à suivre Jésus-Christ. Même quand c'est dur, même quand ça coûte quelque chose, quand les autres te disent des choses qui ne sont pas vraies, hein, c'est ça qui est parlé là. Et quand tu réussis à rester fidèle, waouh, cette surprise vous attend. Voilà un chrétien. Hein. Et être ce chrétien est un défi à lui tout seul. Parce que, vous savez quoi? Ce n'est pas quelque chose pour des lopettes. Pas du tout. Lopettes, on dit, hein? Oui, ouais. Comment? Ah oui, voilà, mais c'est peut-être exprès. Mais vous pouvez penser, ah waouh, chrétien, voilà, c'est pleure, doux, comme un agneau, hein? Hein? Le cœur pur, etc. Waouh, mais qu'est-ce qu'on veut? Mais non, c'est pas du tout pour ceux qui sont faibles. Parce que pour être doux, il faut être fort. Pour être doux dans le monde aujourd'hui, il faut être super fort. Et pour ça, le Seigneur nous équipe pour réussir à être ses témoins, pour réussir à vivre cette vie en tant que chrétien ici. Parce que chrétien, ce n'est pas chanter, hein. Chrétien, c'est vivre tous les jours ce que Jésus demande en chaque seconde de ma vie, c'est ça. Voilà. J'étais longue, hein. Mais voilà. Ce que Jésus nous dit, ce qui est le bonheur. Le bonheur est de sortir ici et de dire, voilà, je veux vivre en tant que chrétien. Je veux me laisser le remplir par tout ce que Jésus me propose comme aide pour cette vie. Je veux être un de ses disciples. Et pour les 2 semaines, vous pensez, hein, que la vérité est rien.